Bonjour à tous, bonjour Justine.
Bonjour Bénédicte.
On sort aujourd'hui de l'espace culturel Leclerc et de notre librairie pour vous parler de littérature et de la littérature qu'on aime. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que l'on traverse une crise, source d'incertitudes et de questions sur l'avenir de notre société. Et si la littérature est le miroir des questionnements de notre époque, nous allons vous présenter des romans qui nous ont interpellés en ces temps mouvants. Je laisse la parole à Justine qui va nous parler de science-fiction et de dystopie.
Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de deux livres qui sont tous deux des dystopies. La dystopie, c'est un genre littéraire que l'on classe plutôt en science-fiction et on peut la définir comme ceci. C'est un récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. Je vous cite deux dystopies célèbres, 1984 de George Orwell et plus récemment La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ce sont deux récits qui ont connu un gros succès auprès du public. Le premier livre que je vais vous présenter, il est écrit par Chuck Wendig et s'intitule « Les somnambules ». Il est paru aux éditions Sonatine en mars 2021. L'histoire démarre comme ceci. Un matin, quelque part en Pennsylvanie, une jeune fille se met à marcher, le regard vide, prenant une direction qu'elle seule semble connaître. Rapidement, d'autres marcheurs se joignent à elle, et bientôt ils forment la horde, entourés de leur famille, résolus à ne pas les abandonner et à cheminer à leur côté. Parallèlement, un virus ultra-contagieux fait son apparition et décime rapidement une partie de la population. De nombreuses questions vont donc se poser. Les deux phénomènes seraient-ils liés? Comment expliquer ces marcheurs ne ressentant ni le froid, ni la faim, ni la fatigue? Et comment expliquer leur résistance au virus? Dans ce livre, qui fait écho au livre de Stephen King, Le Fléau, on se retrouve donc aux côtés de marcheurs et de leurs familles, très vite rejoints par une équipe de scientifiques chargés de découvrir l'origine de cette étrange épidémie de somnambulisme. Voilà un peu pour l'histoire.
Oui, Justine, et est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelle est la force de ce roman?
Déjà, il aborde une thématique bien connue et appréciée des amateurs du genre dystopique, une chute brutale de la population et un effondrement de la société. Le fait que l'on soit friand de ce type de récit, ça peut s'expliquer. Ça s'explique par le fait qu'on aimerait savoir ou imaginer comment le monde encaisserait ce choc et comment l'humanité réagirait. Est-ce que l'individualisme primerait? Est-ce qu'au contraire, un élan de solidarité ferait son apparition? Et si oui, pour combien de temps? Ensuite, ce qui fait la force de ce roman, ce sont ses nombreux personnages, aux personnalités multiples et complexes. Ça apporte une profondeur à l'histoire. On a par exemple ce prêtre, tiraillé entre son nouveau rôle de leader spirituel et sa colère face à la montée des extrêmes dans son pays. On a également Shana, jeune fille au caractère affirmé, qui fera tout pour protéger sa sœur qui est la première des somnambules. Enfin, on découvre Swan, une intelligence artificielle, chargée de prévoir les risques épidémiques dans le monde et qui semble orchestrer pas mal de choses.
Et au vu de tous ces personnages, est-ce que tu peux nous dire quel est le message de ce livre, s'il y en a un?
Alors, à travers tous ces personnages, de nombreuses thématiques sont abordées, la montée des extrêmes, les fake news, la manipulation de masse, mais aussi la peur de l'autre et la défiance envers son propre gouvernement. Par le biais de ce roman, Chuck Wendig nous invite donc à réfléchir sur notre monde et sur la direction que l'on veut lui donner. Plus qu'un récit post-apocalyptique, c'est surtout, selon moi, une réflexion sur les dérives du monde d'aujourd'hui. Je redonne les références, Les Somnambules, écrit par Chuck Wendig et paru aux éditions Sonatine. Le second livre que je vais vous présenter, il aborde également un effondrement de civilisation. Bon, alors effectivement, c'est loin d'être le premier de son genre, mais ce qui est assez original ici, c'est l'angle avec lequel le récit est abordé, puisque l'angle choisi, c'est celui de l'art. Station Eleven, d'Emily Mandel, sorti en 2016 aux éditions Payot, nous conte l'histoire d'artistes itinérants ayant survécu à un virus qui a bien failli décimer l'espèce humaine. Ça commence comme ça. Nous sommes 20 ans après la catastrophe, et ceux qui se rappellent le monde d'avant l'évoquent avec nostalgie. Kirsten, 8 ans, au moment de la bascule, est désormais sur les routes avec sa troupe de théâtre qui donne des représentations dans les communautés isolées de la région des Grands Lacs. En parallèle, nous vivons aux côtés d'Arthur et de ses proches les derniers instants du monde d'avant. C'est donc tout au long du roman un incessant basculement entre le passé et le présent.
Et qu'est-ce qui t'a plu dans Station Eleven ?
Alors encore une fois, les personnages de ce roman sont très intéressants. Ils sont imparfaits, humains, ils ont dû faire face à des choix compliqués et sont devenus ce que le monde a fait d'eux. C'est intéressant car pour certains, on assiste à leur évolution sur des dizaines d'années et on observe comment chacun a réagi face à l'incompréhensible. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'étonnamment, malgré la thématique, l'écriture et l'atmosphère créées par Emily Mandel en font un roman plutôt doux et lumineux.
Donc tu nous as dit que ce qui fait l'originalité de ce roman, c'est l'angle par lequel l'histoire est racontée. Et est-ce que tu peux nous dire de quelle manière l'art est représenté dans le récit ?
En fait, Emily Mandel a voulu nous montrer qu'une fois la reconstruction du monde entamée, une fois les gens à l'abri du froid et de la faim, survivre ne suffit plus. L'humain a besoin de plus, et c'est là que l'art ressurgit. Il apparaît d'abord au centre du roman, puisque l'on suit une troupe de théâtre itinérante qui rejoue des pièces de Shakespeare et des partitions de grands compositeurs classiques. Mais il apparaît également par petites touches tout au long du roman. L'un des personnages aura l'idée de rassembler tous les objets d'un monde oublié, le nôtre, et d'en faire un musée. Un autre choisira de collecter et d'archiver les témoignages des rescapés de cette catastrophe afin d'organiser la transmission entre les générations. Et c'est bien tous ces éléments qui confèrent à ce roman une ambiance un peu veloutée, où malgré l'effondrement de la société, tout n'est pas que sauvagerie. Au final, la question que l'on se pose, c'est une fois qu'il n'y a plus rien, plus d'État, plus d'infrastructures, plus d'économie, qu'est-ce qui subsiste chez l'être humain ? Est-ce l'individualisme et la violence ? Est-ce la beauté et l'art ? Évidemment, ce n'est ni tout l'un ni tout l'autre, mais on peut facilement imaginer qu'on resterait les mêmes. Après tout, l'art est présent chez Sapiens depuis des milliers d'années.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit. Serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
D'écouter Un monde nouveau de Feu Chatterton. Les romans dystopiques que nous a présenté Justine sont comme des mises en garde sur les dérives politiques, scientifiques et environnementales d'aujourd'hui. Et certains romans de cette rentrée littéraire de septembre, sans se présenter comme des dystopies, sont tout autant engagés dans cette voie. Et j'ai donc envie de vous parler du dernier roman de Richard Powers, Sidération, qui est sorti donc ce mois de septembre et qui est paru aux éditions Actes Sud. Richard Powers nous raconte l'histoire de Théo et de son fils Robin. Théo est astrobiologiste, il étudie l'univers et plus particulièrement en fait les atmosphères des exoplanètes afin de découvrir s'il existe d'autres formes de vie en dehors de notre univers. Robin, son fils, lui, est un enfant différent. C'est un enfant qui a du mal à s'adapter au milieu scolaire. C'est un enfant qui peut avoir des réactions violentes et inappropriées. C'est néanmoins un enfant curieux et très intelligent, mais en fait complètement inadapté socialement. On comprend que Théo et Robin vivent dans un monde où le réchauffement climatique s'est accéléré, où le système politique a dérivé vers une forme totalitaire. En fait, la démocratie a disparu sous un simulacre de liberté. Et on comprend également que la mère de Robin n'est plus. Et Théo, face aux difficultés croissantes de son enfant, se résout donc à l'inscrire dans un programme scientifique expérimental qui, grâce à l'intelligence artificielle et à des stimuli extrasensoriels, est censé développer les facultés d'adaptation de Robin. Ce programme, en fait, il est censé développer l'empathie et le contrôle des émotions de l'enfant. Et cette expérience, en fait, va avoir dans un premier temps des résultats vraiment stupéfiants. Mais stupéfiant jusqu'à quel point? En fait, ici, Richard Powers signe un roman engagé, fort, qui nous questionne tout à la fois sur notre place dans l'univers, sur l'origine de la vie et de ce que nous, hommes, nous en faisons. Il s'interroge aussi sur notre propension à vouloir tout normer dans notre quête de l'individu parfait. Il fait d'ailleurs un parallèle très très important tout au long du roman avec un classique de la littérature de science-fiction, Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Dans ce roman de Daniel Keyes, en fait, il s'agit d'un journal intime d'un attardé mental, Charlie, qui va être l'objet d'une expérience scientifique, et expérience qui est censée le rendre ultra, ultra intelligent. Et Daniel Keyes, en fait, dans le roman, nous relate les résultats et les conséquences d'une telle expérience sur la vie de cet homme. Et ce qui arrive à Robin dans Sidération, au sortir de cette expérience, en fait, c'est un miroir de ce qui arrive à Charlie dans Des fleurs pour Algernon. Et au final, est-ce que la science est impuissante à nous rendre meilleurs et à nous rendre plus heureux? Est-ce que la science est capable de nous extraire de notre condition humaine?
Ok, donc Richard Powers nous parle de science, d'environnement, mais à ton avis, pourquoi un tel titre, Sidération?
À mon avis, Richard Powers, à travers cette histoire, veut nous sortir, nous, de notre propre état de sidération dans lequel nous sommes aujourd'hui. Sidération face à l'urgence climatique, face aux dérives politiques, mais dans le même temps, il tente de nous réconcilier avec notre imperfection humaine, avec la fragilité du hasard de la vie. Et pourquoi un tel titre aussi? Parce que je pense que la fin du roman nous laisse complètement dans un état de sidération.
En résumé, qu'est-ce que tu as aimé dans ce roman?
On aime tout dans ce roman. L'histoire parce qu'elle est forte, les personnages parce qu'ils sont comme nous, faits de contradictions. On aime les questions que Richard Powers nous amène à nous poser. Et on aime surtout la poésie de ce livre, l'écriture de Richard Powers. Et je vais vous citer juste une ou deux phrases du livre. « Oh, elle était bien cette planète. Et nous aussi, on était bien. Bien comme la brûlure du soleil, la piqûre de la pluie, l'odeur du sol vivant. Le champ universel des formes infinies, paraphant l'air d'un monde changeant qui, d'après tous les calculs, n'aurait jamais dû exister. » En bref, c'est un roman parfait.
Merci Bénédicte.
Sidération n'est pas le seul roman de cette rentrée littéraire qui aborde cette thématique de la science et plus particulièrement de l'intelligence artificielle. Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature, nous interpelle avec son dernier roman paru aux éditions Gallimard et qui a pour titre « Clara et le soleil ». Imaginez-vous un monde à l'environnement dégradé, hyper pollué, où les enfants désociabilisés adoptent des robots comme ils adopteraient des animaux de compagnie. Et c'est cela que nous raconte Ishiguro. Clara est une AA, autrement dit une amie artificielle. Elle attend dans la vitrine d'un magasin qu'une enfant veuille bien l'adopter. Et un jour, au travers de cette vitrine, elle va croiser le regard de Josie. Josie, c'est une enfant solitaire qui vit seule avec sa mère et une intendante de maison. Et donc voici Clara qui commence sa vie de robot de compagnie. Mais très vite, Clara s'interroge. Pourquoi Josie reste-t-elle des jours entiers alitée? Pourquoi sa mère semble si étrange et si insaisissable? Dans ce roman, nous sommes complètement Clara. Toute l'histoire, en fait, nous est relatée à travers le seul point de vue du robot. Pas si robot que cela, d'ailleurs, en fait. Et au fur et à mesure de l'histoire, le jugement de Clara s'affine. Son interprétation des réactions humaines s'éclaircit.
Mais est-ce que c'est déstabilisant de n'avoir que pour seul point de vue celui de Clara?
Oui et non. C'est vrai que nous ne sortons jamais de la vision de Clara. C'est ce qui donne beaucoup de mystère à ce roman. Mais c'est un roman qui nous interroge tellement. Jusqu'à quel point l'homme est irremplaçable? Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme? Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir sa propre conscience, ses propres intérêts, sa propre morale? Est-ce que Clara, simple robot, peut devenir complètement unique comme l'est un être humain? Je crois qu'au fil de la lecture, on oublie que celle qui nous raconte l'histoire est un robot. Et on finit par l'apprécier pour ses pensées, ses réactions et sa naïveté même. En fait, Clara et le soleil, c'est vraiment un roman vertigineux qui ouvre la porte à une multitude de questions auxquelles en fait, l'auteur se garde bien de répondre et il nous laisse complètement juge en la matière. On espère que cette sélection de romans vous aura plu. Je vous rappelle les titres dont nous avons parlé. Justine nous a présenté Les Somnambules de Chuck Wending, paru aux éditions Sonatine, et Station Eleven d'Emily Mandel aux éditions Payot.
Et Bénédicte nous a présenté Clara et le Soleil de Kazuo Ishiguro et Sidération de Richard Powers. Bonne lecture et à bientôt.
À bientôt.